Une arrivée sous bonne escorte au tribunal de Paris. Mila, 18 ans, a décidé de faire face à ses harceleurs pour découvrir le visage des 13 personnes jugées pour l'avoir insultée et menacée sur les réseaux sociaux.
On ne menace pas de mort. Et quand on menace de mort, eh ben, il peut y avoir des perquisitions, des gardes à vue, des passages devant le tribunal et des condamnations. Et si ce message passe, alors peut-être qu'il y aura moins de nouvelles Mila à l'avenir.
Tout débute en janvier 2020. L'adolescente critique l'islam sur les réseaux sociaux.
Le sujet a commencé à déraper sur la religion. Donc moi, j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que liberté d'expression, tu connais.
Dans la foulée, les attaques et les menaces se sont multipliées par salves incessantes. Mila a déménagé, vit sous protection policière et doit suivre des cours à distance. Parmi ces nombreux harceleurs, 13 d'entre eux sont jugés. Ils ont entre 18 et 22 ans, pas de casier, pas de profil de délinquant ou de fanatique. Certains ne se rendent pas compte de la gravité de leurs propos. Pourtant, depuis 2018, l'envoi d'un seul message à une personne harcelée suffit pour être poursuivi en justice. Et face aux agressions et aux drames qui trouvent leur origine sur les réseaux sociaux, le parquet de Paris s'est doté en janvier d'un nouveau pôle dédié à la lutte contre la haine en ligne.
C'est un fléau. Enfin, les réseaux sociaux, c'est à la fois une grande avancée démocratique, ça peut être un lieu d'échange formidable, mais c'est aussi une poubelle à ciel ouvert. À utiliser avec parcimonie, bon escient, réflexion, nuance, recul.
Alors comment fixer des limites à ceux qui déversent leur haine sur Internet? Peut-on encadrer la liberté d'expression sur les réseaux sociaux sans pour autant les bâillonner?
La liberté d'expression doit être exercée à visage découvert, en tout cas en démocratie. Pourquoi ne pas imposer la fin de l'anonymat et observer ce que ça donne, Benoît Tulin? Est-ce que vous pouvez d'abord nous aider à faire la distinction entre le pseudonymat et l'anonymat et nous dire également si l'anonymat, ça existe vraiment sur les réseaux sociaux?
Alors c'est vrai que c'est un débat qui traverse un peu les clivages, hein, sur les médias sociaux, puisqu'on imagine assez aisément qu'à partir du moment où on est abrité derrière... une forme d'invisibilité, que ce soit total anonymat ou pseudonymat, bah, au fond, on se livre un peu à faire n'importe quoi. Et effectivement, on l'a constaté malheureusement encore une fois dans cette affaire. La réalité, c'est qu'en fait, il y a assez peu d'anonymat réel sur les médias sociaux. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, qui en a un usage normal, même s'il met un pseudo, et beaucoup d'entre eux en mettent, hein, alors ça dépend des médias sociaux. Là aussi, il y a des technologies et des usages un peu différents. Sur Facebook, il n'y a quasiment pas de pseudo et quasiment des identités réelles. Sur Twitter, c'est plutôt l'inverse. En général, on a plutôt un pseudo, ou quelquefois, ça peut être que son nom, mais c'est pas systématique. Simplement, la réalité, c'est que si on recherche, si on fait une bonne investigation, en réalité, il y a très très peu de chances qu'on ne vous retrouve pas. Et donc, ça va demander quand même un peu d'effort. Et les gens, souvent, ne l'imaginent pas, ce qui, du coup, est un frein en moins, exactement. Et ils n'imaginent pas, je pense que la plupart des prévenus qui sont passés au procès étaient surpris eux-mêmes d'être tracés. La réalité, c'est qu'en fait, avec votre téléphone, avec toutes les bornes, etc., et on le voit d'ailleurs sur les questions de sécurité, un terroriste qui se balade dans la France avec un téléphone, on retrouve finalement des traces de lui absolument partout.
Avant le chiffre du jour, une réaction de la philosophe sur cette décomplexion liée à l'anonymat, il y a cette illusion au fond de ne plus exister, de se fondre dans la masse.
Bah oui, enfin c'est ce que font les réseaux sociaux, et je dirais que ce qu'on vient de dire montre bien que c'est une illusion. C'est-à-dire que à travers les réseaux sociaux, vous avez le sentiment d'exister, mais en réalité, vous n'existez pas réellement puisque vous êtes toujours agrégé à une communauté. Et du coup, vous avez le sentiment que vous pouvez agir sans conséquence. C'est-à-dire que non seulement votre identité se trouve gommée, mais en quelque sorte, les conséquences de vos actions disparaissent.
Le chiffre, alors?
C'est 100 000 là, depuis la publication des vidéos polémiques sur l'islam de Mila. On l'a vu dans le sujet. Eh bien, cette jeune fille a reçu 100 000 messages de haine sur les réseaux sociaux. C'est son avocat, Richard Malka, qui a communiqué ce chiffre. Et au final, on l'a vu aussi, seulement 13 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui à Paris pour avoir participé à ce harcèlement. Alors, Romain Badon, on se dit 13 personnes pour 100 000 messages, c'est pas beaucoup. C'est parce qu'on n'a pas les moyens ou parce que finalement, ça suffit aussi d'avoir si peu de monde pour harceler?
Bah, je pense aussi que ce procès, il a un rôle symbolique important qui est de montrer justement qu'il n'y a pas de réelle impunité sur les réseaux sociaux et qu'on peut être tenu responsable devant un juge des propos qu'on y a tenus. Et c'est vrai que l'anonymat à cet égard joue un rôle important. Ce qui est important aussi dans ce procès, c'est le rôle qu'a joué le pôle de lutte contre la haine en ligne, qui est le parquet numérique,
qui est tout récent
et qui a pour rôle justement de mieux faire collaborer les plateformes et les institutions judiciaires pour pouvoir identifier plus vite, plus facilement ceux qui sont qui tiennent des propos de ce type.
Mmh. On peut harceler avec un seul message, Benoît Thurin, depuis une loi de 2018 dans l'ENCHIAPA, c'est ça?
Bien sûr, oui. Mmh. Mais on voit bien d'ailleurs, bien sûr qu'il y a une vertu pédagogique évidente à ce procès, et c'est important d'en parler parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent conscience qu'en réalité ils s'exposent à un risque eux-mêmes, et peut-être cela constituera-t-il un frein à leur espèce de libération qu'on constate tous. Mais on voit aussi les limites, c'est-à-dire que 13 sur 100 000...
Ben on n'allait pas déférer 100 000
bien sûr, mais ça montre aussi la limite. C'est-à-dire qu'on sent bien que la réponse judiciaire, qui est longue, et c'est normal qu'elle soit longue et lente, et qu'elle soit aussi sur les cas les plus graves, elle laisse de côté en réalité tout un certain nombre d'autres personnes qui ont aboyé avec les loups et qui ont, d'une certaine manière, contribué à ce harcèlement. Et donc il va falloir aussi réfléchir à d'autres moyens, pas simplement judiciaire, mais peut-être de réfléchir à d'autres types de sanctions, à d'autres types de pédagogie.
Pédagogie, oui.
Bien sûr. Alors pédagogie, il y a déjà les procédures de signalement qui existent, mais qui ne sont pas souvent très connues. Et puis, il y a une vraie question qui est, est-ce que les plateformes elles-mêmes, d'ailleurs elles le font en réalité, ont finalement une espèce de justice privée, autonome, on l'a vu avec l'affaire Trump au moment de l'affaire du Capitole.
On évoque la modération, le principe de la modération avec
sur Twitter. En particulier.
Alors sur Twitter.
Ouais, voilà. Parce que cette fois, c'est au tour du réseau social Twitter de se retrouver devant la justice. C'est une bataille qui a commencé il y a 8 ans déjà, il y a plus de 8 ans même. Ça avait commencé en octobre 2018 quand le hashtag, le mot dièse, le mot-clé, un bon juif, il était arrivé dans le top 3 des sujets les plus commentés sur la plateforme. L'Union des étudiants juifs de France, avec d'autres associations antiracistes, avait porté plainte. Ils avaient obtenu de Twitter qu'ils fournissent l'identité de certains des auteurs de ces tweets. Depuis, ces associations, elles sont nombreuses, elles ont un nouveau cheval de bataille, elles veulent contraindre le réseau social à, je cite, dissiper l'épais mystère autour de la modération des contenus, dire publiquement combien de personnes sont affectées au signalement à la modération, selon quels critères aussi, bref, lever cette espèce de secret professionnel qui entoure le fonctionnement des algorithmes. Ces associations, elles ont donc assigné Twitter en référé, l'audience est tenue mercredi dernier, elles ont fondé la procédure sur la loi de 2004 dite pour la confiance dans l'économie numérique, qui impose à ces plateformes de rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre la haine en ligne. Elles ont également fourni au tribunal un test qui a été réalisé entre le 17 mars et le 5 mai 2020. Ils ont constaté que sur 1100 tweets haineux signalés, Twitter n'en a supprimé que 12% sur 5 jours. 12% en 5 jours. Romain Bdor, est-ce que cette procédure, elle a la moindre chance d'aboutir? Est-ce que la justice française peut tordre le bras à Twitter et pour qu'ils nous disent comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils modèrent ou pas d'ailleurs?
C'est vrai que Twitter, c'est vraiment un cas très particulier. C'est à la fois l'espace du débat en ligne, mais par rapport à d'autres plateformes comme YouTube ou Facebook, c'est un espace qui est beaucoup moins modéré que les autres. Et alors que Facebook ou YouTube ont commencé à publier beaucoup d'informations sur leurs pratiques de modération, tout en disant ce qu'elles veulent bien nous dire, évidemment, mais Twitter va un peu à l'encontre de ce mouvement. Est-ce que la justice peut réussir à tordre le bras à des firmes qui sont américaines, qui répondent du droit américain, où les données sont hébergées dans d'autres pays, c'est toute la complexité de ce type de dossier.
Perrine Simon-Léaume, quand même, sur cette liberté sur les réseaux sociaux, on peut se poser la question, certes il y a de la haine, certes il y a de la méchanceté, est-ce que ce n'est pas le prix à payer quelque part pour avoir l'exercice de cette liberté? Est-ce qu'il ne faut pas l'accepter?
Je ne crois pas. C'est-à-dire que là, nous sommes confrontés à un exercice démocratique qui, me semble-t-il, est extrêmement salutaire. C'est-à-dire que, comme très souvent d'ailleurs, nous avons confondu les moyens et les fins. C'est-à-dire les moyens, c'était le développement d'Internet, de ces réseaux sociaux, dont nous pensions qu'ils permettaient l'accès de tous au savoir, une libération de la parole, une liberté de circulation, des relations sociales étendues.
C'est aussi le cas.
C'est aussi le cas, mais on se rend compte, comme toujours en démocratie, qu'il faut réguler. Et donc je pense que c'est l'exercice auquel nous allons maintenant nous prêter, et heureusement.
Benoît Thuelin. Ce sont des espaces de clivage aussi, j'allais dire.
Oui, bien sûr. Et
oui, mais le clivage n'est pas le débat. Est-ce que le clivage est le débat?
Non, je ne crois pas. En tout cas, enfin, bien sûr qu'il y en a, mais il faut voir que, comment dire, c'est vrai que quand on se borne à finalement d'avoir une lecture sur les principes, au fond, la liberté d'expression, alors la vision américaine qui est très, très, très libérale, la version européenne qui est différente, bon. Mais en réalité, ça commence aussi à changer aux États-Unis. Oui. On parle, depuis notamment l'affaire du Capitole.
Depuis l'affaire du Capitole.
Exactement. On parle, on dit freedom of speech is not freedom of reach. C'est-à-dire que.
Quand tu as une
traduction.
C'est-à-dire qu'en fait, on dit que c'est, vous donner la liberté de vous exprimer n'oblige pas à ce qu'on vous donne la liberté ou les moyens plutôt de diffuser fortement votre expression. Ah. Et donc, on commence à réfléchir au fait que si vous êtes haineux, si vous vous comportez mal en ligne, et peut-être que oui, vous aurez le droit de continuer de dire ce que vous dites, mais on va peut-être pas le diffuser à des millions
de
personnes.
Moins de gens.
Voilà. Et donc ça veut dire que du coup, on bascule vers autre chose que le cas judiciaire dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire finalement à une modération qui, je crois, de plus en plus va être celle des algorithmes. Et ça veut dire que du coup, pour la puissance publique, il y a un enjeu que ce soit elle. Parce que je crois que en démocratie, c'est comme ça que ça doit fonctionner, que ce soit elle qui régule et qui fixe un cadre dans lequel ces algorithmes peuvent effectivement dire là, telle personne s'exprime de manière trop haineuse, elle reprend des propos.
Est-ce qu'on a les moyens humains et technologiques pour ça?
Les moyens humains, je pense qu'on ne les aura malheureusement jamais. Oui. Et donc, c'est une impasse. Il ne faut pas le faire, mais c'est une impasse. Vous avez des milliards de conversations tous les jours. Oui. Les moyens humains, vous ne pourrez jamais les faire. Donc, ça veut dire qu'il faut basculer sur de l'algorithme. Alors, attention, je ne dis pas une justice algorithmique. Mais en revanche, sur des cas, on va dire, pas trop litigieux, mais quand vous êtes, et tout le monde l'a constaté, vous remontez à une discussion sur Twitter assez vite, c'est souvent d'une violence verbale incroyable, eh ben non, et je pense que d'ailleurs, de toute façon, c'est valable d'ailleurs pour tout débat public. Ici, il y a une journaliste, il y a des journalistes, vous modérez, si tout d'un coup je deviens désagréable, vous allez me couper la parole et vous allez me dire,
passer la parole à quelqu'un d'autre. En même temps, j'allais vous dire, il y a une forme d'autorégulation. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autorégulation sur ces réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui signalent que c'est un message haineux. Et du coup, on peut peut-être aussi se rendre compte que ça l'est. Et on n'a pas besoin d'attendre en vain, parce que c'est le cas aujourd'hui, l'action de la puissance publique.
Il y a de
l'autorégulation. Peut-être.
Il y a de l'autorégulation. Est-ce qu'elle suffit? Je pense que, comme vous le disiez, en Europe comme aux États-Unis aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réguler. La question, c'est quel est le bon acteur pour le faire? Les réseaux sociaux ont leur part à jouer. Ils éditent des standards de publication, des règles, et ils ont le droit de les faire respecter. Mais il faut aussi que la puissance publique supervise ce travail, à la fois pour vérifier que les lois du pays sont bien respectées, aussi pour s'assurer que les droits des internautes, en termes de liberté d'expression, soient respectés. Et puis la question de la justice, comment on remet de la justice dans tout ça, puisque en démocratie, c'est aux juges de régler les litiges relatif à la liberté d'expression.
Et est-ce que finalement, ce n'est pas ça la vraie solution? Donner des cours, concrètement, à des élèves, dès le collège, dès le primaire même, en leur disant, voilà, les risques, et ça n'existe pas visiblement aujourd'hui.
Les risques et les dangers?
Alors, ça commence à exister. Oui. La seule chose, c'est qu'il ne s'agit pas de se limiter aux instruments que nous avons. Vous parliez de la violence. En fait, la violence, elle est dans la langue que nous utilisons tous les jours. Et il faut savoir pourquoi, finalement, cette langue est devenue violente. Pourquoi est-ce que vous assignez telle ou telle personne à telle identité? Pourquoi le fait de l'inscrire dans un groupe fait que, d'une certaine façon, vous la délégitimez, vous la sortez du débat? Donc, en réalité, je dirais que les instruments, l'éducation, elle ne se limite pas au fait de savoir manier les instruments, elle ne se limite même pas à l'idée de l'esprit critique, mais c'est aussi le fait de pouvoir discuter avec l'autre,
les mots,
de pouvoir accepter
interroger
l'autre,
les mots qu'on
emploie. De pouvoir accepter la pluralité de la société.
Donc c'est enseigner la nuance, alors, peut-être.
Et l'altérité.
Et l'altérité,
en l'occurrence. Benoît Thuelin, certains parlent de la friction, qui est une manière de rendre plus compliqué, de complexifier l'usage et de le ralentir. Est-ce que c'est une piste?
Bien sûr que c'est une piste.
Expliquez-nous d'où ça vient.
Alors, que cette friction, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que les médias sociaux ont énormément changé en 10 ans. Il y a 10 ans, tous les messages que vous voyez sur votre flux Facebook ou Twitter, c'était ceux des personnes que vous suiviez. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si vous voyez un message apparaître sur votre flux, c'est parce qu'un algorithme, dans la masse d'informations qui a été publiée, a choisi celui-là plutôt qu'un autre. Donc, il faut voir, c'est qu'il y a déjà une intermédiation sur ces plateformes. Et du coup, s'il y a une intermédiation, on peut réfléchir au fait que, on va y fixer des règles. Par exemple, les gens, ils ont le retweet facile. Oui. Vous lisez à peine un article, vous voyez juste que ça parle de sujets qui vous énervent et vous le retweetez. Et bien, aujourd'hui, sur Twitter notamment, il y a une petite capsule qui apparaît qui vous dit, est-ce que vous êtes sûr de le retweeter parce que vous ne l'avez pas lu? Donc, c'est mieux de lire avant quelque chose que vous allez promouvoir. Et je vous dirais, il y a tout un certain nombre comme ça de grammaire, en réalité, qu'il faut inscrire dans ces plateformes
et qui
vont ralentir.
Est-ce que vraiment quelqu'un qui veut insulter, diffamer et harceler, si ça prend 5 minutes de plus,
alors,
c'est
vraiment... Elle parle.
Est-ce que c'est vraiment dissuasif?
Là, déjà, ça permet de ralentir la viralité. C'est-à-dire que vous retweetez sans regarder, ça va un peu ralentir. En fait, ça va vous tendre un miroir pour vous dire, attention, vous avez conscience de ce que vous faites. Vous êtes en train de diffuser une information que vous n'avez même pas lue. Bon, ça c'est la première chose. Mais on peut ici aussi imaginer que si par exemple vous tenez des propos, par exemple, moi je crois beaucoup au fait qu'il faut retrouver de la politesse, de la douceur.